Et dans quelques secondes, 7h19, c'est l'heure des enjeux internationaux avec Thierry Garcin et Éric Laurent. Aujourd'hui, le Japon, le virage diplomatique de Tokyo à l'égard des États-Unis. L'invité de Thierry Garcin et d'Éric Laurent, Jean-Marie Bouissou, chercheur aux séries. Bonjour Thierry.
Bonjour Marc. Longue série de liens forts entre les deux partenaires, encadrés par évidemment la constitution de 1946, par les traités et accords de 51, 60, 90. Or, cette relation s'est distendue récemment. On va voir pour quelles raisons et surtout dans quel contexte asiatique, puisqu'on assiste, et c'est tout à fait notable, à une régionalisation complexe mais régulière des économies en Asie-Pacifique. Alors, l'invité d'Éric, Jean-Marc Bouissou, chercheur aux séries.
Incontestablement, dans le programme du Parti démocrate pour les élections, il était écrit noir sur blanc que on voulait établir avec les États-Unis une relation d'égal à égal. Ce qui, dans la mesure où le Japon, depuis sa défaite, est quand même, dans le cadre du traité de sécurité qui le lie aux États-Unis, un pays protégé par les Américains, pas vraiment un partenaire à part entière, vu de Washington en tout cas, c'est une inflexion notable. Alors, dans la pratique, le nouveau gouvernement a effectivement suivi un certain nombre de politiques qui ont profondément irrité Washington.
Il y a un double niveau. Il y a effectivement donc cette remise à niveau avec les États-Unis et la volonté de se rapprocher aujourd'hui de la Chine.
Effectivement, si on prend un peu de distance avec les États-Unis, je dis un peu parce que les dirigeants démocrates répètent quand même sur tous les tons que la pierre angulaire de la diplomatie japonaise, c'est toujours l'alliance américaine. Il n'empêche que, disons qu'en ce moment, il y a énormément de tensions entre le nouveau gouvernement japonais et les diplomates américains. Alors évidemment, il ne faut pas se retrouver tout seul dans un vaste monde hostile. La deuxième inflexion, effectivement, c'est le dialogue avec la Chine et la construction de l'Asie. Le dialogue avec la Chine s'est manifesté de manière extrêmement spectaculaire lorsque le secrétaire général du parti, M. Ozawa Ichiro, a emmené avec lui 143 députés démocrates, c'est à la fin de l'année dernière, littéralement présenté leurs hommages aux dirigeants chinois et après, il y a même eu un détour pour saluer le président de Corée. On n'imagine pas ça, presque, pas tout à fait la moitié, mais presque la moitié des parlementaires démocrates allant en Chine saluer les dirigeants chinois. Ça fait un petit peu penser, il faut le dire, aux ambassades qui autrefois allaient présenter le tribut de l'empereur du Japon à l'empereur de Chine. Un petit peu quand même, l'opinion était un petit peu désarçonnée. Et la question c'est, on veut dialoguer avec les Chinois, d'accord. Mais dialoguer pourquoi, au fond? C'est ça qui n'est pas clair. Bien sûr, il faut créer une bonne atmosphère. Mais bon, qu'est-ce qu'on demande aux Chinois? Qu'est-ce que les Japonais demandent aux Chinois? Ça, ce n'est pas clair du tout. Est-ce qu'on va dialoguer sur, par exemple, la délimitation des zones économiques spéciales en mer de Chine, qui est un problème sur lequel Japonais et Chinois se frictionnent tout à fait régulièrement? Est-ce qu'on va demander aux Chinois de changer leur politique à l'égard de Pyongyang, d'être moins conciliant à l'égard de la Corée du Nord, par exemple, avec lequel le Japon a un très gros contentieux, qui considère à juste titre comme une menace. Est-ce qu'on va demander aux Chinois de, par exemple, lever leur opposition à l'entrée des Japonais comme membres permanents du Conseil de sécurité, par exemple? Est-ce qu'on va demander aux Chinois de prêter la main aux Japonais pour la construction asiatique? Vous voyez, tout ça n'est pas précisé. On veut dialoguer, mais pour l'instant, c'est un dialogue qui reste assez vide, d'autant plus que, il faut bien le dire, les principes qui gouvernent la nouvelle politique des démocrates. Le nouveau Premier ministre Hatoyama a un mot qui revient perpétuellement, c'est « yuai », la fraternité. Il veut faire du Japon une puissance utile. On revient en fait à un principe que les néo-nationalistes japonais qui ont tenu le pouvoir pendant les 15 dernières années à peu près, avait complètement oublié, à savoir que le Japon est un pays pacifiste et que le Japon entend être une puissance civile et utile. Alors Hatoyama entend donner aux Japonais le leadership sur les problèmes écologiques, par exemple. Il a suspendu, au grand mécontentement de Washington, la mission de ravitaillement que la flotte japonaise menait pour les forces de la coalition en Afghanistan, par exemple. Alors, ces principes-là, ça ne va pas avec les Chinois. Il faut bien le dire, les Chinois sont adeptes du rapport de force pur et dur.
Exactement. Mais vous n'avez pas le sentiment tout de même qu'il peut y avoir, à travers, par exemple, le révélateur qu'a constitué la crise financière, donc venant des États-Unis, de la part de deux pays qui sont, au fond, les principaux acheteurs de bons du Trésor américain, le sentiment tout de même que le leadership américain était peut-être ébranlé, que je dirais que la pérennité de la domination américaine était peut-être maintenant en question, et que donc un rapprochement au sein d'une sphère, celle de l'Asie, s'imposer.
Alors effectivement, je crois que les deux capitales partagent au moins un point de vue, à savoir que l'hégémonie américaine est sur le déclin. Et que les États-Unis sont la source de la plupart des maux économiques qui ont bouleversé la planète récemment. Bon, cela posé, est-ce que les Chinois développent de leur côté une volonté de prendre la place des États-Unis ? Je ne le crois pas, et les Japonais absolument pas. Donc effectivement, ils ont un intérêt commun qui serait, alors que les États-Unis, selon eux, mènent le monde dans la mauvaise direction, au moins, eux, de s'embarquer pour consolider la zone asiatique et l'organiser mieux, la mettre en particulier à l'abri, autant que possible, des secousses provenant des États-Unis. Ça, c'est sûr, il y a un intérêt commun.
Et même le rapprochement, par exemple, entre la Chine et les pays de l'ASEAN, rapprochement économique récent, en est un signe.
Alors oui, il y a beaucoup de signes. Il y a non seulement le fait que les zones de libre-échange se multiplient en Asie, notamment à l'initiative des Chinois, mais aussi à l'initiative des Japonais. Les Japonais, depuis 2006, ont mis sur la table un projet qui permettrait de remplacer ce qu'on appelle le plat de spaghetti, c'est-à-dire il y a 103 accords différents de libre-échange en ce moment qui concernent les plus ou moins les pays d'Asie, remplacer cet enchevêtrement inextricable par une zone de libre-échange. Ça, c'est en discussion. De même, l'Asie a fait beaucoup de progrès sur le chemin de la stabilisation monétaire. Il y a maintenant des accords de soutien mutuel entre banques centrales, en gros, qui rappellent un petit peu le serpent monétaire européen d'autrefois. Et les Japonais ont dit clairement qu'ils voulaient, que leur objectif était une monnaie asiatique calquée sur le modèle de l'euro. Pas pour tout de suite, certes, mais dans un moment. Et les Chinois, qui pendant longtemps ne voulaient même pas en entendre parler, aujourd'hui interviennent à l'égal des Japonais dans les accords monétaires.
Donc, à votre avis, on peut effectivement donc envisager une évolution et un rapprochement assez rapide ?
Il y a un intérêt commun, certes, aujourd'hui, entre Tokyo et Pékin, mais il est évident que la rivalité pour le leadership est sous-jacente.
Elle demeure aussi forte, à votre avis ?
Je dirais plus forte que jamais, parce que les Chinois ont bel et bien le sentiment que la puissance japonaise est en déclin. Les Japonais également, d'ailleurs. C'est très intéressant, parce que dans un mois ou deux, la Chine va dépasser le Japon comme deuxième puissance économique mondiale. Et les Japonais, finalement, ont l'air de l'accepter sans rien dire. Le rapport des forces a quand même changé.
Jean-Marc Bouissou, chercheur au CERI. Demain, nous nous retrouvons évidemment, 7h18, les États-Unis, les déboires répétés du président Obama en politique étrangère. Notre invité est Charles Kogan, chercheur à Harvard et comme d'habitude, bien entendu, franceculture.com.
Merci Thierry Garcin. À demain.